Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Gilles Pro.
Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à la ricanade. Parle, genre.
Gilles Pro.
C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
Voici le commentaire de Gilles Pro.
Alors, Gilles, comme Michel Rivard chantait, le monde a besoin de magie et les images qu'on voit de la surface de Mars, c'est magique.
Ah, puis d'une clarté incroyable, une très belle définition à des milliards de milles, ça se peut pas. Évidemment, la vitesse de l'électricité à 180 000 milles à la seconde peut aider, mais la planète Mars semble nous voir, elle nous regarde donc vis-à-vis la Terre, et à partir de ces photos, elle s'interroge peut-être sur le fait que la Terre est née il y a probablement 4 milliards d'années, et qu'elle a profité de l'abondance d'eau, l'existence dense d'azote, là, d'azoté, d'air azoté, et ça nous amène encore une fois à tenter de savoir si la vie existe ailleurs. Une planète semblable à la nôtre, et encore une fois, on voit bien que ça n'en dit long, à savoir si on doit réfléchir et se demander s'il existe la vie ailleurs. Ça fait jaser les extraterrestres et puis tous ceux qui, les tenants des objets non identifiés, les martiens comme on les appelait avant. Mais c'est sûr, il y a des milliards de galaxies, et là, on est juste dans la cour arrière de la Terre, dans la galaxie terrestre, si on veut, il y a des milliards d'autres, mais on doit s'interroger quand on voit ces photos, et de Mars doit voir les photos de la Terre, que notre bonne vieille Terre nous envoie des signaux quant à sa longueur de vie, 4 milliards d'années, mais pour le moment, l'analyse scientifique ne nous donne pas encore de réponse sur la cueillette des sons, là, parce que cet appareil-là a ramassé des sons du vent. On peut pas aller ben plus loin à coups de milliards de dollars.
Mais c'est ça l'être humain aussi. Là, on n'est pas seulement au ras des pâquerettes. Là, on se pose des questions. On a tous fait l'expérience l'été avec un ciel étoilé. On est couché dans l'herbe. On regarde. C'est quoi ça l'infini? C'est quoi notre place dans l'espace? Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers? On vient d'où? On va où? Ces questions-là, c'est les grandes questions de l'humanité. On se les pose tout le temps.
C'est intéressant de la soulever, c'est vrai. Ouais. Parce que tu parlais de la voûte céleste. Moi, j'ai eu la chance, ben, comme bien d'autres à l'écoute, de séjourner longtemps dans le désert, en Algérie surtout, et la nuit, d'assister à cette voûte céleste qui nous domine et qui nous ramène à notre petitesse dans l'univers où les 7 milliards d'individus refont la vie à leur façon, mais sachant pas qu'ils ne sont que des grains de sable dans cet univers.
Alors moi, ça me touche beaucoup. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça, c'est de l'argent perdu. Ça donne strictement rien. C'est des milliards de dollars pour aller dans l'espace. Mais l'être humain aussi, c'est ça. C'est la curiosité. C'est essayer d'explorer.
C'est le surpassement, effectivement. Mmh. Et puis, on a dit ça au début quand on a voulu concurrencer les Soviétiques avec les Sputniks, et puis qu'on est arrivé avec les nôtres par la suite, ben on s'est aperçu que ces appareils qui coûtaient une fortune, eh bien, ont servi quoi? À faire de l'espionnage, à deviner à l'avance les ouragans, la température à venir, etc.
Et là, justement, Jean-François, ici à la console, va nous faire entendre le bruit sur Mars. On écoute ça, le son.
Oui.
Wow!
C'est des grands vents. Ça a l'air d'être des grands vents, il n'y a pas de doute. Hein.
Ou c'est un extraterrestre qui a pété, là.
Bon. Peut-être aussi. C'est un phénomène de la nature et naturel.
Alors, vous voulez dire, tout le monde là, est vraiment fâché. Je viens de parler à Sophie Préjean, puis elle dit, bon, le milieu des artistes, on veut monter sur scène. Comment ça se fait? On permet pas l'ouverture des théâtres. Même chose pour les cabanes à sucre et tout ça. Chacun dit, pourquoi pas moi?
C'est exact, puis des cris du cœur, il y en a-tu, ça se peut pas, c'est rien que ça qu'on entend, les cabanes à sucre, il y en a déjà une quarantaine qui ont été obligées de fermer, les cabanes à sucre, c'est plus des restaurants que d'autres choses maintenant, la cabane à sucre de jadis, tu vas là avec ton bâtonnet, puis tu manges une tire dehors, à prendre peut-être une boisson, c'est agréable, avec les chevaux tout près, puis aller voir les canisses qui résonnaient des gouttelettes de sucre qui tombaient, mais c'est devenu des restaurants plus que d'autres choses. Alors, des cris de cœur, il y en a, des cris de cœur, des salles de spectacle, comme Sophie te disait tout à l'heure, des salles de cinéma, des salles de danse, des salles à dîner, alors des cris de cœur, les églises même cette semaine, alors des cris de cœur par-ci, des cris de cœur par-là, mais on ne semble pas, Richard, s'apercevoir. Moi, je pense qu'on fait du camouflage, carrément, parce que le gouvernement n'élabore pas beaucoup sur le fait qu'on est entré dans une troisième vague, qui est celle du variant. Les écoles, la fermeture est un exemple probant.
Mais comment ça se fait que M. Arruda dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez ouvrir les musées, les salles de spectacle, puis Legault dit non. Alors que Legault dit toujours, je base mes décisions sur la santé publique. Mais ben, c'est faux.
Je comprends pas, il va y avoir un post-mortem après ça, si jamais ça finit. Et j'ai bien l'impression qu'Arruda, moi, va être blâmé, ou il va être congédié, ou muté ailleurs. Il sera plus la référence dont l'auréole était si forte au début de la crise, à l'écouter, et de voir le nombre de contradictions contredites par Legault lui-même, qui n'est pas un scientifique, mais un comptable, ne l'oublions pas.
Alors là, on va s'obstiner, vous et moi, parce que vous, le REM, le REM, vous dites, attends, il faut attendre avant de dire que ça va être lettre. Mais moi, je suis convaincu, ça va être lettre.
Ben, je suis pas certain, parce que d'abord, c'est sûr que ces architectes démissionnent, ça fait bien, nous autres, on veut pas être associés à un travail de prolongement du REM, parce qu'on quitte le chantier, tout simplement. J'espère qu'ils ont eu leur paye de départ avant de quitter, parce que ça va défigurer la ville. Moi, je rappelle que les partisans, eux aussi, de combien d'autres grands projets, notamment les Parisiens, voulaient démolir la Tour Eiffel. Aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes qui montent, c'est le Québec entier qui monte en haut à 100 $ de la montée, et puis c'est devenu un symbole identitaire. Le pont Jacques-Cartier, on avait critiqué le pont Jacques-Cartier à cause de sa courbe au-dessus de la rue Craig, qui est devenue la rue Saint-Antoine, et aujourd'hui, ben, le pont Jacques-Cartier est devenu un symbole illuminé et de référence. Et j'espère que les architectes qui ont reçu leur paye avant de partir ont dû voir les plans, qu'est-ce que ça aurait l'air, mais ils n'ont pas vu plus loin. On ne sait pas qu'avec le temps, en tout cas, un modèle qui nous apparaît là à l'œil, avec le temps, l'œil s'y fait, et puis avec la verdure qui va s'ajouter, probablement que la réaction m'apparaît, moi en tout cas, très prématurée pour l'instant.
Mais eux autres, ils ont claqué à la porte parce qu'ils disent que ça va enlaidir Montréal, puis ils veulent pas être associés avec un projet qui va enlaidir Montréal. Mais vous savez, je suis allé à Détroit, puis il y en a un, justement, monorail à Détroit, c'est laid en maudit. À Miami aussi, je crois qu'il y a un monorail dans certains quartiers de Miami. Est-ce que c'est Chicago? Je suis un peu mêlé, mais ça existe dans certaines villes.
Chicago, il y en a, oui, certainement. C'est ça. J'ai vu ça il y a pas tellement longtemps. Mais
ça va être recouvert, vous le savez que ça va être recouvert de graffiti, là, de haut en bas, les stations, tout ça, là, ça va être, il y aura pas un pouce sans graffiti.
Probablement, parce qu'on laisse faire. D'ailleurs, le maire Coderre et comme madame aussi, la ricaneuse, ont déjà dit de ne pas arrêter ces morveux qui graffitent les bâtisses, pas plus grave que ça. Vous n'avez qu'à passer à la caisse. C'est drôle, à Dallas, ils ont eu cette maladie-là, mais ils ont des vraies polices avec des bras et des matraques, puis il n'y en a plus du tout. Tout simplement parce qu'il y a eu de la volonté, hein. On a décidé d'agir. Mais le REM, moi, je suis pas prêt encore à lui lancer des pierres, même si ça va être une partie au-dessus de la rue Notre-Dame ou Boulevard René-Lévesque.
Oui, c'est ça.
L'esthétisme va jouer là.
Mais vous qui avez voyagé beaucoup, Gilles, on va se le dire, là, on aime Montréal, c'est une ville sympathique, Montréal, mais c'est laid en vierge.
C'est pas une belle ville, Montréal. Elle est belle du pont Champlain, quand tu traverses le Brossard, tu vois cette maquette avec ses édifices. Mais une fois que tu rentres dedans, elle perd son âme par ses rues contradictoires. D'abord, il n'y a pas d'esthétisme de circulation. Des rues très étroites, dont plusieurs parties ont été construites sous le régime britannique à l'époque où on pensait pas loin avec les boulevards à venir 100 ans plus tard. On n'a pas eu un baron Haussmann pour faire de l'aération.
Et là, on a eu une chance, Là. Il y avait un quartier qui était Griffintown. On aurait pu, là, Griffintown, ça aurait pu être magnifique. C'est d'une laideur. C'est une tour à condo, face à une tour à condo, face à une tour à condo. On peut sauter d'un balcon à l'autre.
C'est épouvantable. Alors, comment il se fait que les ingénieurs puis des architectes qui travaillent pour la ville peuvent conseiller le maire ou la mairesse, dire, écoutez, pensez-y deux fois, est-ce qu'on ne voit que les taxes, l'île des Sœurs, pareil, à la Pointe-Nord, c'est rendu un Manhattan. Ah, mais le petit maire, lui, qu'est-ce qu'il voit là-dedans? C'est des quelques milliers de dollars de taxes qui s'ajoutent à chacune à chacun des appartements, mais c'est pas pensé très loin. On voit pas que l'esthétisme de ta ville devrait être glorieux dans 100 ans, 150 ans, dire, hey, c'est-tu merveilleux
ben oui.
que ces architectes ont fait. Bon, il y a l'île Sainte-Hélène.
Non, il y a pas de plan d'urbaniste. On laisse les entrepreneurs immobiliers faire ce qu'ils veulent, puis c'est ça que ça donne.
Voilà, un Champs-Élysées. On en a tué un Champs-Élysées, nous autres. En 67, ça aurait été le temps, pendant qu'on démolissait, puis on a fait le boulevard René-Lévesque. On n'a pas pensé plus loin. Il y a eu le maire Préfontaine, je recule un peu loin dans le temps, qui, à partir de la Comédie nationale, avait percé une rue qui menait vers, donc, de Saint-Laurent à Saint-Denis, et il y avait un plan, on les a encore, ces plans-là, il est influencé par la France, faire un Champs-Élysées. Je comprends pas qu'on n'a pas eu plus d'envergure que ça, mais ça semble à notre étroitesse d'esprit de coloniser de petits peuples.
Au moins, il y a le Mont-Royal et il y a le parc La Fontaine, quand même, qui sont très beaux. Merci beaucoup, Gilles.
Le parc en Grignon.
Le parc en Grignon, qui est absolument magnifique. C'est un secret bien gardé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le parc en Grignon. C'est magnifique dans l'Ouest, à Ville-la-Salle. Merci beaucoup, Gilles.
Au plaisir. Au revoir.